Sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qui est plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Qui sont censés défendre la veuve et l'orphelin?
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Canal FM. J'adore.
Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette année 2025 pour cette aventure Club de la Presse. Et ça nous fait toujours plaisir d'être avec vous. Je veux terminer ces vœux que je vous adresse pour 2025 en soulignant combien l'année qui vient marquera un renouveau de notre vie démocratique. En février prochain, Sénat sera mise en place et dans les mois qui suivent, la réforme constitutionnelle votée en 2024 entrera en vigueur. Le Togo deviendra alors une véritable démocratie parlementaire, comme c'est le cas dans plusieurs grands pays, notamment l'Inde, l'île Maurice, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, par exemple. C'est un extrait du discours du président de la République, Faure Gnassingbé, pour ses vœux à la nation togolaise. Un discours diversement commenté et analysé par les Togolais. L'essentiel est-il dans ce discours, y a-t-il des non-dits? Le chef de l'État aurait-il manqué l'occasion d'exprimer aux Togolais ce qu'ils vivent chaque jour? Je poserai ces questions à mes confrères en studio avec moi. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la Presse. Premier numéro pour le compte de cette année 2025. Nous sommes au lundi 6 janvier 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo et c'est grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment nos radios partenaires en ligne, enfin notamment nos plateformes digitales bien sûr, Ibn Radio, enfin il y a notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, mais vous pouvez aussi nous suivre alors sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. En Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, du continent africain et aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes lundi et là, l'équipe de lundi est déjà en place. Uriel Nyang, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes celles qui nous écoutent, à tous ceux qui nous écoutent. Et s'il m'est permis, bonjour à tous les Togolais. Très belle année 2025 à tout le monde, particulièrement à ma famille, parce qu'il faut commencer par là, à ma femme et à mes enfants. Oui. Je leur souhaite le meilleur pour que l'année 2025 soit une année plus heureuse pour nous. Et autour de nous, je souhaite paix et joie, prospérité dans les familles, parce que si vous êtes les seuls heureux, ça ne vaut pas la peine. Vous vivrez tous les problèmes comme si vous n'êtes pas heureux. Donc, Très belle année à la radio Canal FM. Je vais parler de tout le personnel.
Merci.
De la radio. Santé, prospérité dans vos familles. Beaucoup de choses au directeur général de la radio. Moi, je l'ai toujours dit, hein, quand je souhaite bien des choses à un DG, c'est que je pense à l'amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel. Donc, il comprend déjà que s'il est heureux, il pourra rendre heureux aussi l'ensemble de son personnel. Donc, nous ici présents, chacun a son personnel aussi autour de lui, chacun a sa famille. Bonne année à la famille du président Jacques, à la famille du président Didier, à toute la population de Couvé. Bonne année à Godson, à sa famille, à ses petits-enfants, et que Dieu nous accompagne tout au long de cette année.
D'accord, merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plaisir de vous retrouver. Bonne et heureuse année à vous aussi, Uriel Nyang. Jacques Dzakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Et comme le disait tout à l'heure le confrère Uriel, je voudrais également souhaiter mes voeux les meilleurs à nos auditeurs, à la population, ceux qui nous écoutent. Il est vrai, Pascal, on parle, mais il y en a qui nous écoutent quelque part. Certainement, dans la vie, vous savez, c'est lorsque vous ne piétinez pas que vous ne connaissez pas la valeur de l'homme. Donc, on se piétine, mais la façon de se piétiner nous recommande également de pouvoir nous pardonner. Et peut-être nos propos ont frustré, blessé certains au cours de l'année passée. C'est le lieu de présenter nos excuses aux uns aux autres et souhaiter une bonne année. Ce que je souhaite à chacun d'entre nous, c'est d'abord la santé. Et si on a la santé, on dit souvent que les autres choses se négocient. Bonne année à nos autorités, au président, au premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, à tous les membres du gouvernement, à l'Assemblée nationale, et nos voeux également à la classe politique de l'opposition, aux confrères journalistes, à tous les corps de métier. Nous souhaitons une bonne et heureuse année. Bonne année à tout le personnel de Canal FM, à toi-même.
Merci beaucoup, Jacques.
Et à mes deux amis techniciens qui sont de l'autre côté, Gérald et Michel.
Oui.
Je ne sais pas s'ils sont mariés. Donc, s'ils sont mariés, je leur souhaite...
Ils sont mariés.
Ah, d'accord.
Voilà, je vous donne l'information. Ils sont mariés.
Donc, ma prière est qu'ils puissent prendre soin de leurs
Ils ont des enfants aussi.
Ah, d'accord. Ouais. Là, félicitations. Je comprends pourquoi la tête de l'autre la brille comme ça. Donc, souhaite également une bonne année à Modeste, comme Uriel le disait tout à l'heure, au directeur de Canal FM, à Dadede et à Patricia, et à mon ami Sass Gaou, tous les journalistes, tous nos confrères, et bonne année également à ceux qui sont à la diaspora qui nous écoutent également, et à chacun, à chacune. Ma prière est que le vœu de chacun soit exaucé cette année,
d'accord,
et que les attentes, les espoirs de chacun et chacune soient comblés cette année. Donc, une fois encore, mes meilleurs voeux de paix, mes meilleurs voeux de santé, de prospérité au Togo et en Afrique et dans le monde.
Merci beaucoup Jacques pour ces voeux adressés à nous et aussi à nos auditeurs. Didier Assogba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour à mes aînés en studio. En même temps, bonne année à eux, bonne année à toi, bonne année à la direction et au personnel de Canal FM. Bonne année à tous les Togolais où qu'ils se trouvent sur la planète Terre. Et bonne année à tous ceux qui ont supporté nos propos, nos analyses durant l'année 2024. Bonne année également à ceux qui n'ont pas compris, je ne dirais pas n'ont pas supporté, mais n'ont pas compris le fond de nos pensées, de nos expressions certaines fois. Bonne année à chacun de nous, que l'essentiel ça soit la santé, qu'on soit tous en bonne santé et qu'on essaye de contribuer au développement et la construction de notre nation. Donc on verra à l'heure du bilan en 2025 qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Et je veux croire que notre président qui est à ma droite ici, dont la barbe continue de... Vous comprenez, donc...
Vous ne voulez pas dire blanchi.
Bon, voilà. Mais il a de la jeunesse à revendre, en fait.
D'accord.
Donc, il ne cherche que des opportunités, donc on comprend qui pourra. Puisque nous sommes dans l'année surtout des nominations, et il faut justement que des choses viennent de quelque part aussi. Pourquoi pas?
C'est votre souhait pour lui.
Il y a la hack, quelqu'un a salué tout à l'heure Sass ici depuis sa position où il se trouve. Ça fait plus d'un an que des confrères ont été élus à l'Assemblée nationale pour siéger à la hack. On a abordé ce sujet-là à plusieurs reprises ici. Vu que ça fait plus d'un an, on est maintenant en janvier, il faut peut-être qu'on en reparle, et donc j'en reparle d'ailleurs. Et il faut que quelque chose soit fait dans le sens de la République, qu'on se souvienne de ces citoyens qui, au nom de cette élection, à cette fonction-là, ont dû laisser leur boulot, espérant pouvoir prendre fonction, mais ça fait plus d'un an qu'il n'y a plus de suite, que la République n'a plus donné suite à son action. Donc, encore une fois, je le dis, nous faisons appel aux juristes de la République, aux responsables de cette affaire-là, pour que au moins on puisse régler leur cas, puisque, on a dit nous serons une véritable démocratie à partir de maintenant. Donc il faut justement que la démocratie commence par là, qu'on respecte le droit et d'un certain nombre de citoyens togolais élus à une fonction de la République et qui sont restés à la maison depuis plus d'un an et dont personne ne parle. Donc pour moi, ça fait un peu comme brimer les droits des gens. Donc j'en parle, je n'y avais pas pensé avant de venir, mais c'est venu comme ça, et donc peut-être que ça tombera dans des bonnes oreilles et que, dans les jours qui suivent, on sera clarifié sur ce dossier.
D'accord. Merci beaucoup, Didier, d'être dans cette émission, d'avoir répondu à notre invitation. Gaston Ketomania, bonjour. J'allais dire, monsieur le président.
Bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, pas mal. Il faut juste surtout préciser ce pourquoi je suis président.
Un président, c'est un président.
Un président, justement, c'est un président.
Non, ce n'est pas la même chose.
Pas besoin de spécifier que...
Il le faut. Pour les journalistes pauvres, très endettés, dont je suis le président, ce n'est pas très reluisant, mais nous assumons. Parce que si cette année, on apprenait que l'aide de l'État à la presse...
Oui.
A connu une hausse conséquente, ce serait tout à l'honneur de la corporation.
Mais est-ce que ça veut dire que votre association n'existera plus si déjà on...
L'aide qu'on aura à augmenter ne va jamais suffire, l'humain étant un éternel insatisfait. Donc, on prendra ce qu'on voudra bien nous accorder.
Ce qui veut dire que même à 4 milliards,
la lutte continue.
Votre association existera.
La lutte continue. Je saisis l'occasion pour d'abord formuler mes voeux à mon père, Camille Ketomania, ma mère, Djokoto Essi, mes enfants, Keren et Ulda, ma petite-fille, Jaël, ma femme, Amélie. Ensuite, je fais un clin d'œil au proviseur du lycée moderne de Kouvahé, que j'ai eu l'honneur de rencontrer ce matin. Je ne veux pas oublier nos forces de l'ordre de sécurité qui, durant toutes ces périodes de fête, étaient en veille à contrôler, à surveiller nos frontières pour que, à l'intérieur du pays, tout se passe sans accroc. À eux, je veux formuler mes voeux de courage, surtout d'abnégation, parce que la mission pour laquelle ils sont déployés, surtout au nord, ce n'est pas de la sinécure. Affronter des gens armés, ce n'est pas une mince affaire. Donc, ils ont besoin de courage. Je leur en formule abondamment. Je ne veux pas oublier nos auditeurs et auditrices de Canal FM, et surtout les fidèles lecteurs du journal Liberté.
D'accord, ils sont nombreux à l'écoute hein, de cette émission Club de la Presse. Et tel que vous l'avez fait tout de suite, je profite également de l'occasion pour souhaiter bonne et heureuse année à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent au Togo et aussi au-delà de nos frontières. Je veux bien parler de ceux qui sont dans la diaspora. Ils sont aussi très nombreux à nous écouter. Bonne et heureuse année à vous tous. Et surtout la santé. Santé également, tel que Jacques l'a dit, que vos vœux ou du moins vos désirs pour le compte de l'année 2025 soit réalisé avec le Tout-Puissant. Merci. Alors, nous redémarrons notre aventure après quelques temps alors de pause. Temps de pause, vous l'avez si bien senti. Uriel, nous commençons cette émission avec ce sujet. On sait que déjà dans la nuit, alors du 31 au 1er, La fête n'a pas été rose pour les femmes alors d'Adido Gomé-Assiyeye parce que il y a un incendie qui a ravagé encore le marché parce qu'il y a d'autres marchés qui ont été ravagés et tel qu'on en discutait même d'ailleurs pratiquement quand on prend depuis 2013 jusqu'à présent c'est 10 marchés qui sont ravagés par le feu dans notre pays. Alors Uriel, on pourra se poser la question de savoir ben, qu'est-ce que nous avons fait alors au démon du feu.
Bon, si les Togolais ou l'humanité connaissaient quelque chose qu'on appelle démon de feu qui existe, à qui on peut aller demander pardon ou à qui on peut aller offrir ceci ou cela pour qu'il arrête de nous faire subir ce phénomène de feu, on le ferait. Je doute si actuellement nous connaissons ces démons-là, où est-ce qu'ils résident. On ferait tout ce qu'on pouvait faire pour arrêter les incendies parce que, comme tu l'as si bien dit, personne ne peut se réjouir lorsqu'on apprend que là où on exerce son activité économique de revenus vient de prendre feu. Mais c'est un deuil, c'est carrément un deuil, même si c'est pas un être humain qui vient de... rendre l'âme, c'est carrément un deuil parce que votre vie en dépend. Le marché d'Adido Gomé-Assiyeye vient s'ajouter à la longue liste de tous ces marchés qui ont subi ce drame d'incendie depuis 2013, comme tu l'as dit, commençant par le grand marché de Kara, à Daoulato, à Lomé, à Palimé. Toute une liste assiégée même vers nous là-bas et c'est karma catastrophique. Mais je ne sais pas parce que je ne suis pas allé à l'école de l'interprétation des mystères. J'aurais pu dire quelque chose là-dessus. Je ne sais pas si c'est un fait mystérieux où les spécialistes pourraient nous donner des explications ou des précisions, ou bien ce sont des phénomènes que les spécialistes aussi pouvaient expliquer sans rentrer dans le mystérieux. C'est un peu compliqué. Tout ce qu'on peut dire, c'est de proposer des solutions parce que un incendie, on peut l'éviter. On peut l'éviter si au départ, dans le système de construction des marchés, puisque majoritairement, ce sont les marchés qui ont brûlé.
Oui.
Majoritairement, ce ne sont pas des bureaux, ce ne sont pas des domiciles, ce ne sont pas des routes qui ont brûlé, mais ce sont des marchés. Si on pouvait faire à telle enseigne que dans le plan de construction, toutes les dispositions soient prises pour qu'on installe tous les systèmes. Alerte incendie et tout ça, installation des extincteurs, formation de tous les exploitants du marché sur l'utilisation des extincteurs, je pense qu'on pourrait éviter beaucoup de choses. Rappelez-vous, lorsque le marché d'Agoyassiye avait pris feu, l'enquête avait abouti et on nous avait fourni des résultats et il s'agissait des installations sauvages, des compteurs additionneuses, des câbles sauvages et tout, c'est ça qui a pété, qui aurait engendré des courts-circuits. Donc aujourd'hui, si il n'y avait pas ces installations sauvages, je pense que le marché d'Agoyassiyeye hein, continuerait par s'animer. Et les revendeuses et les revendeurs auraient toujours leur joie et leurs biens économiques et ils continueraient par financer ce qu'ils ont prévu à financer. Donc, il vaut mieux proposer des solutions pour que l'autorité puisse les prendre en charge. Et moi, ma proposition, c'est de ne plus construire des marchés de cette façon archaïque. Archaïque parce que presque tous les marchés sont à la mode archaïque. Il n'y a pas de système de sécurité, il n'y a pas, on construit juste, les hangars sont là, les femmes viennent déposer leurs marchandises et puis le jour où ça pète, tout le monde perd. Donc il faut dépasser cela, il faut dépasser cela, il faut investir vraiment, construire des marchés avec tout le système de sécurité en place. On sait que lorsque l'alerte incendie se déclenche, on sait ce qui se prépare et immédiatement, ceux qui sont chargés de l'arrêter, l'arrêtent et on ne vivra même pas l'incendie. Parce que ça, c'est ça, c'est tout. C'est tout. Il y a rien à faire. Il faut éviter ce type de marché qui peuvent brûler. On peut l'éviter. Vous voyez, par exemple, à Cara, le nouveau marché de Cara, malheureusement, qui n'est pas encore habité comme plusieurs marchés sur toute l'étendue du territoire qui ont été construits à coût de milliards, mais où les femmes refusent d'aller exercer leur métier. Ça aussi, c'est un autre sujet. Vous prenez des marchés du genre, c'est un marché où il sera très difficile de parler de l'incendie parce que toutes les dispositions sont prises. Le plan de construction a pris tout en compte. Oui, il serait très difficile de parler de l'incendie. C'est la même chose. Le chantier à Daoulato, ici, mais si ce chantier venait à aboutir, je pense que ce sont des constructions qui ont tout prévu et où il serait très difficile de subir de tels drames. D'accord. Donc aujourd'hui, on va faire un effort parce que c'est l'économie du pays. C'est l'économie du pays. Il faut faire un effort pour dépasser certains types de construction, construire ce qu'il faut construire pour qu'on l'appelle marché pour éviter ces pertes économiques.
D'accord. Déjà, nous sommes à 10 marchés qui ont pris feu, alors qui ont subi même d'ailleurs cet incendie. Alors, finalement, est-ce que déjà après le premier marché, le deuxième marché, est-ce que nous ne devons même pas prendre aussi de tout cela et prendre des mesures, des dispositions pour que ça n'aille pas jusqu'au 10 aujourd'hui?
Non, mais comme Uriel le disait, quel aurait pu être... la mesure ou les mesures qu'on aurait dû prendre pour éviter que de tels drames ne se répètent au niveau de nos marchés. Surtout que nous avons opté pour un modèle de marché que nous connaissons nous tous. Comme il a dit, il faut juste prier pour que le malheur n'arrive pas. Mais sinon, si le malheur atteint la case du voisin, c'est tout le quartier appelé marché qui part en fumée. Et donc, c'est justement dans ce cas d'espèce que vous voyez que la configuration de nos marchés, tels qu'ils sont actuellement, et même les marchés récemment construits, se retrouvent dans les mêmes configurations où, dès lors qu'il va avoir un petit problème, tout le marché risque de partir en fumée s'il n'y a pas de mobilisation et une action prompte des soldats de feu, des forces, on va dire des sapeurs-pompiers, naturellement. Et donc, du coup, aujourd'hui, la mesure et la réflexion doit plutôt aller dans le sens où, avec la décentralisation intégrale du pays, et on a érigé des communes partout où on a besoin des infrastructures, notamment des marchés qui doivent s'animer pour permettre à un certain nombre de communes d'avoir un peu de revenus. Quel type de marché nous devons construire pour le futur? Quel modèle de marché devons-nous construire pour justement viabiliser ces communes-là et surtout l'activité économique phare dans ces communes qui restent le marché pour que, par exemple, dans une commune comme Yoto 1 par exemple, ou Yoto 2 ou Yoto 3, on peut continuer à les multiplier, que le marché ne soit pas un marché de fortune qui s'anime un seul jour de la semaine et bon, il faut attendre le huitième jour pour que le marché s'anime encore. Parce que nos marchés aujourd'hui, dans la plupart des communes, n'ont rien d'attractif. Bon, les gens viennent chaque semaine parce que, bon, ils n'ont pas le choix. Il faut venir là-bas exposer. Et donc, aujourd'hui,
À Lomé, un peu, ça va mieux parce que des gens, c'est, ça devient une activité de tous les jours. Il faut quand même aller au marché. Mais le risque, c'est le même que le risque qui se pose dans une commune comme Bina 2. Donc, à partir de ce moment-là, le problème se repose dans, se repose au niveau de, du choix que nous avons fait, du modèle de marché même que nous voulons avoir. Est-ce que nous avons la volonté de moderniser le marché? Si nous avions eu cette volonté-là, on serait peut-être en train de moins parler des incendies à ce jour, surtout que on a commencé à connaître les incendies des marchés à partir de 2013, par exemple, janvier 2013. Aujourd'hui, on est à janvier 2025, donc ça fait un peu plus de 12 ans, et on reparle de ces incendies-là, et de la même manière et de la même façon. Et mystérieusement, ces incendies-là se déclenchent mystérieusement pratiquement aux mêmes heures. Bon, moi, c'est le constat que j'ai fait. On dit le marché, l'incendie s'est déclaré autour de 22h, autour de 23h. Bah, c'est pratiquement dans les mêmes encablures de la nuit, les incendies se déclarent. Et se déclarent de la même façon pratiquement et consument les choses de la même façon. Donc, à partir de ce moment-là, il faut peut-être dire adieu au marché tel que nous les avons actuellement. Et peut-être, comme on a la chance d'avoir construit le nouveau marché de Kara, et on a la chance de ce que le marché d'Adawatro est en construction, il faut peut-être qu'on duplique ce modèle-là ou ces modèles-là au niveau des communes, dans les marchés secondaires comme un marché comme Adido Gomassieye, un marché comme Djiranawe, qui a besoin même d'être modernisé, tout ce marché-là. Fait. C'est vrai qu'on n'a pas connu... On n'a pas parlé d'incendie là-bas comme il le fallait parce que ça paraît peut-être un marché qui tranchait avec les autres, mais a besoin d'être modernisé pour être adapté aux circonstances actuelles. À Goéassieye qui est brûlé et qui doit être reconstruit. Donc il faut, c'est des réflexions qu'on doit commencer à pousser pour qu'au fur et à mesure on puisse couvrir les territoires en marché moderne pour éviter que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne continue de reparler de ces incendies qui ravagent les marchandises des pauvres dames, des commerçants. Et le discours c'est connu, l'État va aider, on sait que, mais on sait que notre État n'a pas de ressources illimitées pour continuer à financer des gens qui perdent leurs ressources. L'exemple des marchés de Kara et de Lomé, dossier que nous avions suivi en 2013 jusqu'à la fin, l'exemple est là. L'indemnisation n'a même pas permis à certains, voilà, de se prendre en charge dans les hôpitaux jusqu'à retourner sur le marché. Donc à partir de ce moment-là, on ne doit pas miser sur les indemnisations, mais de minimiser les risques autant que faire se peut.
D'accord. Oui Jacques, est-ce que finalement, on nous dit que la construction de nos marchés déjà sur le territoire est problématique?
Bon, je dois d'abord présenter ma compassion à ces femmes, ces braves femmes qui ont tout perdu au niveau de Adido Gomé, à Goéassieye, je crois. Je voudrais leur présenter ma compassion par rapport à cette situation et reconnaître qu'il y a quand même un problème au niveau de nos marchés. Et il faudrait aujourd'hui que l'État puisse faire ce qu'on peut appeler le recensement de presque tous les marchés que nous avons au Togo. Il faut que l'État prenne le temps de faire l'état des lieux au sein de ces marchés et voir le vrai problème que nos dames subissent au sein de ces marchés. Et quand vous allez dans certains marchés, je vous dis, Pascal, c'est tout un problème. J'étais un peu étonné que le nouveau marché de Thévié, qu'on avait inauguré à peine, et une petite pluie, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de ce marché. Donc l'État prenne sur lui de pouvoir faire le recensement. L'état des lieux de tous les marchés sur toute l'étendue du territoire pour voir quels sont les marchés, quels sont les espaces qui ne sont pas adaptés à ce que les bonnes femmes puissent vendre dans ces localités et que l'État prenne les dispositions. Parce qu'on ne peut pas imaginer, l'autre aspect aussi du problème, c'est au niveau des sapeurs-pompiers, Pascal. Le constat, c'est que la seule base que nous avons au Togo ou bien à Lomé, pour le stationnement des sapeurs-pompiers, c'est ici, à Nyakonapo, ici. Donc, s'il y a un incendie, par exemple, vers Agoué, il faudrait que le poste de Nyakonapo démarre avant d'aller jusqu'à Agoué. Et s'il y a, par exemple, un incendie également Vous prenez par exemple les Legbacito, Sogbocito et tout, il faudrait que le poste de Nkonakwe démarre. Donc, il faudrait que l'État puisse multiplier ce genre de base-là au sein des quartiers. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, que la plupart des quartiers aujourd'hui sont bondés, sont peuplés. Et quand il y a, les quartiers sont bondés, sont peuplés, il faut s'attendre à ce genre de choses. Et l'autre aspect, vous voyez même que l'aspect de l'électricité dans nos quartiers, vous voyez comment les gens essaient d'avoir l'électricité. C'est-à-dire que le premier venu, les autres là s'agglutinent sur lui pour pouvoir avoir de l'électricité. Donc il y a des choses qu'il faut revoir dans l'installation au sein effectivement de ces marchés-là. Et il faudrait que l'État puisse revoir ça. Et l'autre aspect également, comme les uns et les autres l'ont dit, parlant de la construction de ces marchés, c'est une bonne chose. Parce que du moment où le constat est fait que les mairies vont tout le temps prendre les taxes chez ces bonnes femmes et qu'on ne mette pas à l'aise ces bonnes femmes, c'est également un autre point de manche. Donc il faudrait aujourd'hui que l'argent qu'on essaie de collecter auprès de ces bonnes femmes-là, que cet argent-là puisse servir à les mettre quand même à l'aise. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, certaines femmes, j'ai suivi un peu le reportage, il y en a qui ont fait des prêts, qui sont allés acheter de l'oignon, du piment et autres, mais qui sont revenus le lendemain, tout a pris feu. Parce que les gens s'attendaient à pouvoir vendre pour la fin de l'année, pour pouvoir rembourser les prêts qu'ils ont fait au niveau des coopératives. Donc je crois qu'il faudrait pousser une fois encore la réflexion au niveau d'essayer de faire l'état des lieux de marché. Parce que si on ne le fait pas, et si on ne trouve pas le juste milieu pour pouvoir aider les bonnes femmes, on sera tout le temps, toujours là, en train de pleurer les incendies. C'est vrai qu'on ne peut pas prédire, on ne peut pas s'attendre à un incendie, parce que quelqu'un peut passer, et parce qu'il peut fumer et jeter par exemple la cigarette, et ça peut créer également des dégâts. L'autre aspect, peut-être une bonne femme a préparé, elle n'a pas bien éteint le feu, et puis ça peut créer un incendie. Et ça, il y a également ce que nous appelons souvent les courts-circuits. Ça aussi peut arriver. Donc, il faudrait aujourd'hui que l'État puisse faire l'état des lieux, essayer de voir ce qu'il peut faire pour vraiment aider nos bonnes femmes-là à s'en sortir.
D'accord. Gosson, oui, mais après ces incendies, souvent ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une enquête qui est ouverte et par après, allez, soit on écoute que c'est par rapport au court-circuit, mais finalement, est-ce qu'on ne doit pas prendre aussi des dispositions pour que ces incendies n'ont pas pour base alors des court-circuits?
Tu sais, Pascal, il faut faire le distinguo. Il y a des incendies criminels et des incendies, je ne veux pas dire naturels, mais qui sont fortuits. Quand on prend les deux marchés, les deux grands marchés, là, on ne peut pas parler d'incendies fortuits. Il ne s'agit pas du sujet. Aujourd'hui, il faut repartir à la base. C'est exprès que j'ai utilisé l'expression « à la base ». Au nom de quoi, sur toute l'étendue du territoire, c'est le ministère du Développement à la base, plus précisément l'ANADEB, qui doit avoir en charge de construire les marchés. Quand je prends l'exemple de Palimé, ça a été conçu par ANADEB. Mais les bonnes femmes n'ont jamais regagné ce marché. Il a fallu l'aide, un prêt ou alors une aide de l'agence allemande KfD en association avec la commune de Kloto pour qu'on reconstruise ce qu'on peut appeler aujourd'hui un marché sur les ruines de ce que ANADEB avait fait construire.
Enfin, ce que ANADEB avait construit ou avait fait construire.
C'est des hangars. C'est pas des marchés. Pascal, disons-nous la vérité. Quand tu vas au marché de Palimé aujourd'hui, tu constates que c'est un marché. Mais quand tu vas à Gamé, à Nkopé, je ne sais où, avec des couleurs identiques, mais reconnaissons que ce sont des hangars. Il n'y a pas de professionnalisme. Je pars de là pour poser la problématique de des appels d'offres pour construire ces marchés. Ce n'est pas des dizaines de millions, c'est des centaines de millions. Mais quels sont ces appels d'offres qu'on a lancés pour qu'on voit les entreprises qui ont gagné la construction des marchés afin que, quand il y a du bobo, on puisse interpeller ces entreprises? Non, on confie tout à ANADEB. Je suis désolé. Et depuis, tu ne verras jamais de rapport
de contrôle, pas d'audit, rapport de contrôle sur la manière dont les fonds ont été utilisés, sur la manière dont la construction a été faite. Il faut partir de là. Autrement, pourquoi, quand celui de Palimé a brûlé, pourquoi on n'a pas pu confier ça à Nader pour la reconstruction? Celui de Daneko, qu'on est en train de reconstruire, pourquoi on ne l'a pas encore confié à Nader? Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Combien de marchés Anadep a eu à construire de Lomé à Saint-Cassé? Il serait temps que les responsables passent à la barre et fassent l'état des lieux. Après tout, tant que le contribuable ne va pas l'utiliser, ça ne sera pas utile. C'est un peu comme les passerelles. Pour construire quelque chose, il faut associer les futurs utilisateurs. Qui ont été associés? Quelle mairie a été associée à la construction d'un seul marché? Et pourtant, ce sont les agents de la mairie qui vont pour la perception des tickets et autres. Pourquoi nous n'associons pas les mairies? Et c'est une structure qui vient, qui dépose, je dis bien, dépose des hangars en guise de marché. Est-ce que ces marchés, ces hangars ont été électrifiés? Quelles études ont été effectuées? Bref, je ne voulais pas réagir, mais je me dis, je suis à l'émission, j'ai fait le déplacement pour m'exprimer. Posons les bonnes questions. Pourquoi Anadep doit avoir la charge de construire les marchés? Est-ce une société, en tant qu'autorité contractante, elle a l'obligation de passer les appels d'offres et non de choisir qui elle veut pour qu'on construise les marchés? Après tout, mes expressions, c'est parce que j'ai suivi les formations à la COP, donc je dois en faire usage. Merci.
D'accord. Merci, Gosson, d'avoir fait usage alors de ces expressions que vous avez justement appris à la COP, à la formation de la COP. Alors, oui, cher confrère, c'est vrai que quand on parle alors de ces incendies, moi personnellement, j'ai été étonné de ce que je n'ai pas écouté parler de ces incendies, même d'ailleurs dans le discours du chef de l'État pour ce qui concerne alors ses vœux de nouvel an à la nation. Et Uriel, je ne sais pas si c'est une omission volontaire, et également quand on parle même d'ailleurs de cet accident qui a attiré l'attention des uns et des autres ou de tout le monde, et je veux bien parler de cet accident lors de Passerelle. Est-ce que vous avez compris le fait que déjà le chef de l'État n'a pas mentionné cela dans son discours?
Oui, je l'ai compris, non. Pourquoi on va dire qu'il ne l'a pas mentionné dans son discours? Parlant de l'accident, c'est lui-même qui a instruit une enquête en Conseil des ministres. C'est lui-même qui a instruit qu'une enquête soit menée pour mettre au clair la situation en tenant en compte la procédure de passation de ce marché-là.
Ça veut dire que ça le tient à cœur.
Oui, bien sûr. Donc, si la procédure, l'enquête est en cours, à quoi vaut la peine encore qu'il en parle dans son discours? Moi, je ne vois pas. Personnellement, je ne vois pas. Et puis, concernant les incendies, bon, moi je me dis, toutes les difficultés, tout ce que le pays a connu, il a commencé par là. Les incendies ne sont pas épargnés. Là, je classe tout ça là dans difficultés économiques, dans tout ce qu'on a connu. À chaque ministre maintenant de relever particulièrement ce qui le concerne, puisque quand moi j'ai fait l'analyse de son discours, bon, vous savez ce que nous avons appris au lycée, au-delà de ça, nous qui avons fait les lettres. Vous savez, c'est une question d'analyse ou du résumé. Il n'y a rien de compliqué dans ce discours parce qu'il nous a fait savoir que les difficultés existent. Les causes de ces difficultés, il nous l'a fait savoir. Donc ça c'est bien clair. Même quand les gens disent pourquoi il va citer les guerres ici, mais c'est réel. Une guerre, par exemple, en Côte d'Ivoire, peut bloquer notre canal commercial. Si Didier avait pour canal de passer du Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, revenir au Togo pour vendre de l'or, mais aujourd'hui, s'il y a crise en Côte d'Ivoire, il est obligé de contourner. Alors, c'est un obstacle, c'est tout à fait normal. Avant de nous présenter les efforts du pays, ministère par ministère, secteur par secteur, mais à chacun de nous maintenant de voir si, effectivement, les ministres rendent compte fidèlement au chef de l'État. Sinon, lui, il ne reçoit que les rapports de ses ministres et en fonction de ça, il traite ses thèses. Moi, je ne crois pas qu'il ait oublié l'affaire d'incendie ou qu'il ait oublié l'accident, non. Tout est pris en compte, mais Il faut maintenant que, au-delà des échanges avec les ministres, qu'ils prennent en compte aussi nos analyses, nos observations en tant que journalistes. Quand nous allons sur le terrain, qu'est-ce que nous voyons? C'est très important parce que des fois, c'est nous qui disons plus la vérité. Peut-être même ce que Godson vient de révéler, peut-être le chef de l'État ne le sait pas. Ah, ça, c'est possible, hein? Peut-être il ne le sait pas. Nous venons de parler aussi des marchés inhabités. Peut-être le chef de l'État ne le sait pas. Moi, je suis monté en 2018 sur les montagnes de Yatro avec un député là-bas. Mais vous allez, pour accéder à cette montagne, mais ce n'est pas possible. Vous allez retrouver un marché très moderne, construit, mais inhabité. Ce sont les herbes qui envahissent le marché. J'ai demandé à ces députés pourquoi. Il m'a expliqué, il m'a dit que le promoteur n'a pas pris en compte les aspirations des utilisateurs. Et finalement, quand ça a été construit, les utilisateurs ont... Mais c'est des centaines de millions. Quand vous arrivez sur la nationale à Gamé, en allant vers...
un peu avant, non, tiens.
Oui. Mais vous retrouvez ce joli marché-là à gauche. Après le marché, vous avez un cimetière. On vous dira que les dames ont refusé parce qu'elles disent qu'elles ne veulent pas traverser un cimetière et aller au marché. Ça veut dire qu'on n'avait pas pris en compte les propositions, les idées des bénéficiaires.
C'est l'aspect sociologique et culturel aussi.
Tout ça. Peut-être que le chef de l'État ne le sait pas. S'il faut lister les marchés inexploités, inhabités au Togo aujourd'hui,
c'est beaucoup.
Mais je pense que c'est plus que le nombre des incendies. Le marché de Kara n'est pas encore habité. Donc vous allez voir, c'est des choses qui font perdre beaucoup de notre économie. Mais on utilise les milliards pour rendre heureux une tranche de société sans savoir que cette tranche n'est pas d'accord pour ce qu'on est en train de faire. Et en fin de compte, l'investissement a été fait, mais le bénéficiaire dit non, je n'en ai pas besoin. Ça veut dire que l'argent là, si c'est la Banque mondiale qui nous l'a prêté, on doit rembourser. Mais on ne va pas utiliser la chose. C'est grave. Ce sont des choses sur lesquelles il faut revenir pour que le pays puisse économiser. Peut-être 5 milliards qui ont été utilisés et ces marchés ne sont pas exploités. Mais vous parlez de l'aide de l'État à la presse. Il suffirait même qu'on prenne 1 milliard seulement là-bas pour augmenter l'aide de l'État à la presse. Au lieu de construire des marchés que les gens ne vont pas habiter. Nous faisons un travail énorme et c'est un travail de risque. Notre travail est comparé au travail des avocats. C'est un travail de risque. Nous formons, nous sensibilisons, nous informons, nous éduquons. Mais ce n'est pas facile. Donc, s'il faut investir, ce qui ne sera pas rentable, s'il faut investir dans un domaine où il n'y aura pas retour sur investissement, il faut réfléchir d'abord.
D'accord, il faut réfléchir d'abord. Alors Jacques, c'est vrai que le chef de l'État est revenu sur la feuille de route 20-25 et déjà sur cette feuille de route, le président de la République est revenu sur un certain nombre de chiffres et en fin de compte, le président dit en 2025, nous aurons à poursuivre ces efforts puisqu'il a déjà cité alors les efforts et il reste encore une année à courir pour cette feuille de route. C'est une planification rigoureuse qui a porté ses fruits. Et bien sûr, tout n'a pas pu être intégralement achevé, mais la plus grande partie alors de ce que nous avions programmé a été réalisée. C'est un extrait alors du discours alors du président de la République. Jacques, finalement, quand on prend cette feuille de route, est-ce que ça a commencé par donner ses fruits tel que le président de la République le dit?
Bon, vous savez, quand vous faites un peu le bilan de cette feuille de route 2025, il y a certains aspects quand même... On a vu ce qui s'est passé, mais par rapport à certains aspects également, on voit qu'il y a quand même également beaucoup de choses qui restent à faire. Bon, le président de la République a reconnu, il a parlé une fois encore de la construction des ponts métalliques et tout.
Modulaire.
Donc, c'est pour vous dire que quelque part, il y a un problème au niveau effectivement des routes, indirectement qu'il a reconnu. Quand vous parlez tout à l'heure de cette passerelle, quelque part, quand vous écoutez le discours et vous analysez, vous comprenez que sa peine, il voulait au fait ne pas tout rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais indirectement, il a reconnu que quand même il y a des problèmes. des problèmes. S'il a parlé de la construction de ces ponts, c'est pour vous dire que quelque part, il y a un problème qui est là et il faut résoudre effectivement le problème. Quand vous prenez par exemple la feuille sur la santé, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu le matériel entre-temps qui a été déployé dans les hôpitaux pour aider les patients, parlant des lits, de l'équipement de certains hôpitaux. Et il y a également la construction de Dr Lafia qui a été quand même, qui est aujourd'hui, c'est vrai, quoi qu'on dise, les gens disent que c'est pas n'importe qui va là-bas, mais quand même il faut reconnaître que les services que les gens font là-bas, les services rendus, quand même c'est des spécialistes, il faut reconnaître quand même qu'ils sont en train de faire un bon travail. Vous prenez par la feuille sur l'électrification, c'est également une paire de manches à ce niveau. On reconnaît que vraiment il y a des efforts, beaucoup d'efforts encore à faire à ce niveau. Parlant de l'eau, ça c'est également une autre paire de manches, l'eau et l'électricité dans ce pays. Il y a des choses, c'est deux secteurs qu'il faut vraiment plus encore investir. Parlant de l'éducation, c'est que l'éducation également, il faut reconnaître qu'il y a quand même l'amélioration au niveau aujourd'hui des curricula et également de l'enseignement qui est donné. C'est vrai que d'aucuns me diront que ce n'est pas encore ça, mais il faut reconnaître qu'il y a des efforts quand même qui ont été fournis à ce niveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. Et vous savez que les crises auxquelles nous assistons aujourd'hui, parlant effectivement de ce que nous traversons au niveau du Nord, vous voulez parler de la crise sécuritaire, il faut reconnaître également qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits là-bas. Et ce que j'ai aimé du discours effectivement de Forogna Singbe sur cet aspect, c'est vrai qu'entre temps je l'avais dit ici, les gens m'ont critiqué, mais finalement j'ai vu qu'il a pris cet aspect, c'est-à-dire que on ne peut pas combattre ce terrorisme-là sans ne pas vouloir discuter avec les autres. C'est-à-dire que ceux qui sont impliqués dans les renseignements, ceux qui sont impliqués également à fournir effectivement de vraies informations. D'autres n'ont pas aimé qu'on puisse échanger avec eux. Mais finalement, vous ne pouvez pas gagner cette bataille sans discuter avec ces gens. Parce que c'est des personnes qui sont tout le temps avec nous, mais on ne les voit pas. On cohabite ensemble, mais on ne sait pas ce que les gens font la nuit. Donc, ce discours-là doit être effectivement utilisé à ce niveau, c'est-à-dire vers le septentrion, pour aider effectivement les populations. Pas seulement là-bas, il y a également ici, parce qu'ils sont avec nous, mais on ne sait pas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre en branle également les populations pour servir effectivement de renseignement à nos forces de défense et de sécurité. Donc, il y a l'aspect sécuritaire, il a touché cet aspect. Il y a l'aspect de l'électricité, l'aspect de l'eau, l'aspect de routes, l'aspect également de nos hôpitaux. Il a parlé également de l'AMU. C'est vrai qu'aujourd'hui, Pascal, à ce niveau, il y a également beaucoup d'efforts qu'on doit également faire parce qu'il y a des compatriotes qui ont dit qu'ils ont déposé depuis l'assurance maladie, les cartes ne sortent pas. Il y en a qui se plaignent. Donc, c'est le lieu, une fois encore, d'interpeller les responsables à voir ce qui se passe. Parce que d'autres ont dit que ça fait presque 2 ans, d'autres ont dit 1 an et demi, mais les cartes ne sortent pas. Donc je crois que c'est le lieu d'inviter une fois encore les uns et les autres à pouvoir le faire. Donc, pour me résumer par rapport à ce discours, c'est vrai, il a reconnu qu'il y a des choses qu'on a eu à faire, mais il y a des efforts également qui doivent être faits, c'est-à-dire surtout parlant du panier de la ménagère. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, on peut tout faire, on peut consacrer tous les efforts, on peut investir les milliards, mais Pascal, si au niveau du panier de la ménagère, il n'y a pas un soulagement, je vous dis que nous serons toujours en difficulté. Parce que quelque part, d'autres diront que le vent souffle vers eux, d'autres diront effectivement que peut-être que c'est le tourbillon.
D'accord. Je ne sais pas si vous avez compris le fait que le président de la République a démarré même le discours par cette question de crise climatique. Et à la fin, il revient également sur cette question de changement climatique où il dit « Je suis conscient que nous ne pouvons pas à nous seuls changer la donne climatique comme nous ne pouvons pas à nous seuls résoudre les conflits proches ou lointains, mais nous devons agir. Agir pour contribuer à la solution de ces crises comme nous devons agir pour protéger notre patrie des conséquences qu'elles peuvent avoir sur nous. » Est-ce que vous arrivez à comprendre cela?
C'est très diplomatique. très diplomatique et ça, cette phrase-là ou ce paragraphe-là entre dans le cadre des prises de position et de l'orientation diplomatique du président togolais. Donc cette phrase-là, c'est pas pour le Togolais de s'incasser ou de Tabligbo chez moi là-bas. C'est, cette phrase-là ne veut rien dire à quelqu'un comme ça. Mais d'un point de vue diplomatique, sur le plan international, oui, c'est une phrase, c'est une déclaration qui conforte la position ou les prises de position diplomatiques du Togo pour les résolutions de crise, notamment dans des négociations en termes de changement climatique, des négociations et de résolution de conflits, y compris dans la sous-région. Vous savez, il y a quelques semaines, le Togo a réussi à obtenir la libération de deux gendarmes ivoiriens emprisonnés au Burkina Faso. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que le chef de l'État a dit, nous ne pouvons pas à nous seuls le faire, mais nous devons nous inscrire dans la résolution, voilà, d'un certain nombre de crises, que ce soit climatique, que ce soit, bon, voilà, dans la sous-région et tout ça. Donc ça, c'est juste, c'est la position du pays. Maintenant, le discours même dans l'ensemble, il faut dire que c'est un discours. Et donc, si c'est un discours, on va juste souffrir à ce qu'on n'ait pas tous les aspects de ce que le Togolais veut entendre de la bouche du chef de l'État. Je pense que c'est le problème que moi j'ai relevé, parce que quand vous avez
alors,
vu...
Alors concrètement, si vous êtes peut-être, vous rentrez dans la pensée alors des Togolais, qu'est-ce que les Togolais auraient écouté de la bouche alors du chef de l'État?
Non, les Togolais voulaient entendre beaucoup de choses. Moi j'ai lu beaucoup de commentaires depuis la fin du discours, et j'ai écouté beaucoup de commentaires aussi, ici et là, nous sommes perdus dans la masse, nous sommes du bas peuple, on écoute beaucoup de choses. Bon, par exemple, basiquement, les Togolais s'attendaient à ce que le chef de l'État revienne beaucoup plus sur la réforme constitutionnelle pour expliquer le bien fondé, puisque depuis là, c'est la première fois qu'on l'entend sur le sujet. Les gens s'attendaient à ce qu'il se répande un peu sur le sujet, qu'il développe un peu plus, qu'il donne beaucoup plus d'arguments pour convaincre un certain nombre d'indécis encore sur ce sujet, même si la réforme est déjà votée, mais pour convaincre les gens qui ne sont toujours pas convaincus. Il n'y a pas, vous conviendrez avec moi que ceux-là, ils vont peut-être pas avoir satisfaction à la fin du discours. Vous avez listé un certain nombre de choses, les histoires de dialogue, comment la transition pourra aller entre ce qu'on vit actuellement et la mise en place des autres institutions et l'opérationnalisation de la Nouvelle République, un certain nombre de choses. Jacques le disait, un peu plus sur le social, un peu plus sur, voilà, beaucoup de plans. Les gens s'attendaient à ce que le chef de l'État revienne point par point sur chacun des secteurs du pays. Et comme je dis, discours, ça restait discours. Mais si ça avait été, par exemple, dans un exercice comme... un discours sur l'état de la nation, parce qu'il faisait par exemple l'état de la nation, vous voyez, il aurait eu beaucoup plus de temps, beaucoup plus de pages pour pouvoir revenir point par point sur un certain nombre de secteurs pour dire ce qu'on peut. Même sur la question du terrorisme, par exemple, il a juste dit qu'il a instruit le gouvernement d'augmenter les dépenses pour la lutte contre, pour la lutte contre le terrorisme. Godson conviendra avec moi. La loi de la programmation militaire, où en est-on? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi est-ce qu'on augmente? À quelle hauteur? Bon, ça va intéresser beaucoup plus Gosson. Vous voyez, il y a des détails sur lesquels les gens voulaient entendre le chef de l'État, mais dans le cadre d'un exercice comme ça, comme un discours qui doit prendre chronométré, hein, qui doit prendre 8, 9, 10 minutes, il n'aura pas la latitude de revenir. Vous savez que le chef de l'État, il fut un temps, il faisait des discours jusqu'à 20 minutes, jusqu'à 30 minutes. Et à l'époque, il avait la possibilité d'aborder un certain nombre de sujets, d'aller en détail, de s'expliquer, d'expliquer telle phrase à la suite de telle autre. Mais depuis que les discours sont rétrécis à moins de 10 minutes, vous voyez que à la fin du discours, les gens disent, bon, oh, il a fini, c'est tout ce qu'il a dit. Bon, même si... on estime qu'il a dit l'essentiel. Et les analystes de discours peuvent dire que, ok, l'essentiel s'y trouve, mais le Togolais lambda, le citoyen qui veut beaucoup plus entendre le papa parler, dira qu'il n'a pas tout dit. Dira que, oh, il n'a pas parlé de ceci. comme tu parlais, on a eu un certain nombre de marchés brûlés. Voilà. Il n'est pas revenu dessus, même s'il avait donné des instructions, même s'il a envoyé une délégation là-bas. Des gens veulent l'entendre parler du sujet pour se sentir, ne serait-ce que ce soulagement là, par procuration, dit ah, le chef de l'État a parlé de notre problème.
Hein. Il dit qu'il est intéressé par
vous, ce voyez, problème. Donc du coup, c'est pour ça, moi je comprends. Moi je comprends, en tant qu'analyste de discours, en tant qu'analyste politique, je comprends qu'il ne peut pas tout dire dans le même discours de 10 minutes. Mais s'il avait eu un autre, s'est donné beaucoup plus un la autre cadre, voilà, d'un cadre, l'état de la nation ou d'autres choses, il aurait eu 2 heures de temps, 1 heure de temps pour parler de tous les sujets, pour satisfaire tous les Togolais. Mais je comprends que ça reste un discours, il a dit l'essentiel, il a fait, il le disait, il a parlé des causes, il a parlé des bilans, il a parlé, il a pris des engagements par rapport à 2025. On va juste le suivre dans ses engagements pour qu'il a pris, pour voir tout ce que ça va donner. Même si on s'attendait à dire à beaucoup plus de détails pour sur un certain nombre de changements auxquels on doit s'entendre, quels vont être les mécanismes que le chef de l'État donne le, comme on dit, il donne le là d'un certain nombre de choses. On ne l'a pas senti. Il a juste effleuré des choses, par exemple, sur la mise en place des institutions. Théoriquement, les gens s'attendent à ce que les choses se fassent au plus tard, le soir du 5 mai 2025. Mais le chef de l'État, lui, dans son discours, vous avez vu, il a dit dans les prochains mois.
Il n'a pas été précis.
Naturellement. D'accord. Donc, vous voyez, il y a des choses sur lesquelles les gens peuvent jouer. Voilà, mais
d'accord.
On ne va pas accuser les rédacteurs non plus. Le patron a dit ce qu'il a voulu dire. On s'en tient à cela.
D'accord. Alors, oui, Gossom, c'est vrai que le chef de l'État s'est exprimé aussi sur les réformes constitutionnelles en cours. Et le chef de l'État a donné plus de précisions, bien sûr, là-dessus, en disant qu'en février prochain, un Sénat sera mis en place et dans les mois qui suivent, la réforme constitutionnelle votée en 2024 entrera en vigueur. Le Togo deviendra alors une véritable démocratie parlementaire, comme c'est le cas dans plusieurs grands pays, notamment l'Inde, l'île Maurice, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, par exemple. Alors, c'est un extrait également lors du discours. Alors, quand on écoute le chef de l'État, ça veut dire que l'ambition y est. On veut devenir une grande démocratie.
Ben, Pascal, par rapport à la phrase du chef de l'État que tu viens de reprendre, je parle en tant que conseiller virtuel de notre président. Ça, je ne suis pas en phase. En ce sens qu'en matière de démocratie, je ne sais pas si ce serait une insulte que de nous comparer à l'Inde, aux États-Unis, non, à la Grande-Bretagne, oui. À l'Allemagne, l'île Maurice, non. Il y a des documents qui attestent que entre ces pays et nous, le fossé est abyssal. Très abyssal. Tu parlais d'une partie de son discours dans lequel il disait qu'une grande partie de ce qui a été programmé a été réalisé. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas vrai. Feu, notre ancien président, Gnassingbé Eyadema, disait qu'on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois. C'est Feu Gnassingbé qui danse. C'est à nous autres de l'apprécier et non de s'auto-satisfaire. Cette phrase ne tient pas en ce sens que quand on parle de la feuille de route gouvernementale, elle s'est arrimée à quoi? Ou alors elle a pris la place de quoi? Du PND. On n'a rien dit de ce PND-là. C'est né. Ça, on ne sait pas si ça a grandi et si ça a disparu ou s'il est mort. Non, aujourd'hui, c'est la feuille de route. Et déjà, à un an, on me dit qu'une grande partie de ce qui a été programmé est réalisé. Moi, je ne suis pas de cet avis. Parlant du changement climatique, c'est en ça que j'ai voulu arracher une bise à Didier. Mais malheureusement, c'est un mec. S'il était une femme, j'allais t'arracher la bise. En ce sens que c'est rare d'entendre notre président de la République. Mais après toute une année, en lieu plat de discours, on aurait aimé l'entendre s'exprimer sur l'état de la nation. Il parlait d'une dizaine de minutes. 10 minutes, c'est largement suffisant pour faire l'état de la nation, Pascal. Pour peu qu'on veuille descendre au sein du peuple et
partager avec lui les tribulations au quotidien. Il y a beaucoup de choses pour ce qui est de ce qui est arrivé sur, au niveau de la passerelle ou alors des incendies et autres. Tout ça fait partie de l'état de la nation. Mais quand on vient nous chanter le changement climatique, on n'a pas besoin de ramener ça au niveau de la COP. Non. La deuxième saison des pluies, Pascal, j'ai des images. Dans certains milieux, la pluie a fait défaut. Comment est-ce que ces paysans, ces cultivateurs vont surmonter cette période? Les fêtes sont passées. Et si les prix venaient à augmenter brusquement, on ferait comment? On aurait, comme il a dit, aimé sentir que notre président partage le quotidien du citoyen lambda.
Ça, ce n'est pas le cas?
Ce n'est pas le cas. Pascal, je suis désolé, au risque de déplaire, ce n'est pas le cas. Ce discours, comme Didier vient de le dire, c'est bon pour l'extérieur. Mais tu ne gouvernes pas l'extérieur. Le Togo, c'est 56 000 kilomètres. C'est ici que tu es président. C'est ici que tes administrés doivent sentir que tu es à leur chevet, à leur côté. Les routes, qu'est-ce qui va se passer? La santé, je sais qu'on en a parlé. Mais l'éducation, aujourd'hui, honnêtement, moi, je reconnais que du point de vue éducationnel, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je pèse mes mots. Quand, même si c'est ton ennemi, quand il fait bien, aie l'humilité de reconnaître que sur ce plan,
il fait
bien. Bien sûr, je suis d'accord, parfait, Pascal. Mais sur bien d'autres plans, attention, ce n'est même pas qu'on a du pain sur la planche. On a toute une boulangerie sur la planche.
D'accord. C'est okay. Ça. Ok, merci. Je pense qu'il est déjà midi. Oui, nous allons donner la parole à nos auditeurs. Rapidement.
Une seconde. Vous savez, moi, je pense que si je faisais partie de l'équipe conseil communicationnel du chef de l'État, vous l'avez dit, message de vœux à la nation, j'allais m'arrêter là-bas. Lorsqu'il s'agirait de faire l'état sur la nation, je rentrerai dans le détail. Je pourrais m'arrêter là-bas en quoi faisant. Je présente mes voeux à la nation. Je prends secteur par secteur. J'irai même jusqu'à vous dire qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé et servir le pays. J'allais m'arrêter là-bas. Quand je prends l'éducation, je dis aux enseignants ce qu'il ne faut pas boire pour tomber malade. Restez comme ça pour enseigner. Quand je prends les journalistes, je vous dirai ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, on ne serait pas là à demander au chef de l'État pour que... Vous savez, ce discours ne s'adresse pas seulement aux Togolais. Il y a le corps diplomatique. Ce discours, ce message plutôt, moi j'appelle, c'est un message, s'adresse au corps diplomatique. Tous les ambassades qui sont ici, ce message s'adresse à eux. Et le président de la République en tient compte. Il ne peut pas se limiter comme si, au cours de l'année, ils n'ont rien fait de diplomatique, ils n'ont pas assisté à ce qui concerne le climat et tout. Non, vous voyez ça? Donc, ça ne s'arrête pas au Togo, mais ça va très loin.
D'accord, merci beaucoup, chers confrères. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat et donner la parole à nos auditeurs qui peuvent nous appeler sur le 90 86 35 35 91 36 63 75 et également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Premier auditeur en ligne.
Allô?
Allô?
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom c'est?
C'est monsieur Nick.
Monsieur Nick?
Oui.
J'espère que vous allez bien.
Mes meilleurs voeux à tous les journalistes et du staff.
Merci beaucoup.
Bon, moi, je veux parler par rapport aux incendies concernant les marchés.
Oui.
Bon, en fait, quand vous voyez nos marchés, et vraiment, c'est pas bien. Faites un tour au niveau du marché de Granaoué. vous verrez des choses pas possibles. Mais comment les gens peuvent faire des trucs d'une manière désordonnée? Mais s'il y a un incendie, les gens ne peuvent même pas rentrer pour sauver les choses. Il faut que l'État quand même s'organise pour pouvoir faire les hangars bien ordonnés. On laisse les clients même, eux-mêmes, ils font leur hangar d'une manière désordonnée. Tu ne peux même pas respirer, la chaleur, tout ça là. S'il y a les incendies, écoutez, ça va faire des dégâts. C'est ça le problème. Tel que les journalistes ont dit, ils n'ont qu'à moderniser la construction des marchés, au moins pour éviter des trucs qui fait que, ça fait que les marchands, comment dire, les marchandises partent en feu à tout moment, chaque année. C'est pas bien. Merci pour l'émission.
Merci beaucoup, monsieur Nick, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Allô?
Ouais, allô? Décidément, ils ne nous écoutent pas. Et incendie des marchés, où est-ce que nos autorités en sont pour les enquêtes ouvertes? Quelles sont les conclusions et les recommandations? La population est-elle vraiment au cœur des politiques gouvernementales? Pas sur le papier, mais en réalité, je ne suis pas sûr, car ils n'attendent rien du peuple qui ne leur a jamais accordé leur confiance. C'est Maglibé qui nous écoute depuis Belgique. Allô?
Allô?
Bonjour, comment vous allez?
Bonjour, bien, M. Pascal. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Heureuse année à toute l'équipe présente.
Monsieur et Dany.
M. Kokou depuis Abidjan.
Ah, d'accord. Allez-y, Monsieur Kokou.
Bon, moi, je vais aller tout droit.
Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, au Togo, nos autorités, sans mentir, ne s'intéressent pas à nous. Ce qui les intéresse, c'est comment s'éterniser au pouvoir. Sinon, après tout ce qu'on a compté, tout ce qu'on a vu. Et on a compté plus de 10 marchés volés. Si c'est 10 ou presque 10, quoi. On pouvait éviter ça.
Et depuis 2013, c'est 10.
Marché moderne. Et ça ne dépasse pas le Togolais. Nous restons pas. Nous sommes assez riches. Le Togolais travaille. Mais c'est la volonté qui manque. Ils ne veulent pas. Nos autorités ne veulent pas. Mais courage surtout à vous les journalistes, parce que nous les étudiants, des fois on n'appelle pas, parce qu'on veut exprimer nos mécontentements. Mais vous les journalistes, vous êtes toujours là, vous en parlez, vous écrivez dans vos journaux, et c'est consommé. Courage à vous, que Dieu vous protège. Excellente journée.
Merci beaucoup, monsieur Kokou. Excellente journée à vous aussi. 90 86 35 35 91 36 ou en 315. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavor. Bonne et heureuse année à vous.
Merci, mes vœux réciproques.
Merci beaucoup.
Et à tous les auditeurs, à la sœur ici. Oui, on a entendu les réformes selon le discours du chef de l'État. Ces réformes, c'est la mise en place de l'institution de la cinquième République. Je pense que c'est maintenant que le parti unique, parti État, hein, peut-être c'est ça qu'on attend pour achever notre autoroute de Lomé 57, promis depuis 2005. On n'a pas encore atteint Tchévi. Donc, prions que la 5e République nous offre cette chance et qu'on n'ait pas des passerelles qui vont tomber sur les gens, que les choses soient bien faites. Donc, les incendies, que ces réformes-là prennent ces préoccupations-là en compte, pour que les bonnes femmes n'aient pas peur, qu'elles ne dorment pas la peur dans le ventre chaque fois que peut-être cette nuit, ce sont mes marchandises qui vont partir.
Merci beaucoup, M. Nyamavo, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bon directeur.
Bonjour, papa Sibiti.
Bonne heureuse année pour vous tous.
Merci, nos voeux réciproques.
Tous ceux qui interviennent à Canal FM.
Au club de la presse.
Je n'appelle pas leur nom, vous, monsieur Pascal. Monsieur, celui qui est mon fils qui est parti à La Hague.
Sasgao.
Sasgao. Et les enfants de mon patron, Pondio, et l'autre, Isidore. Et tous.
Et ils sont nombreux. Mon... Vous ne pouvez pas les citer tous.
Voilà. Bonne heureuse année à notre président de la République, Paul Ngatoumbe. Pour que bonne heureuse année à tous les Togolais. à monsieur, à notre président, qu'il écoute tout ce que le peuple dit à la radio. La faim, le chômage, il a donné 60 000, nous le remercions. Ceux qui disent que ce n'est pas ça, moi je reconnais, quand quelqu'un vous fait un don, il faut le remercier. Maintenant le reste, ce n'est pas facile à faire, il n'a qu'à écouter tout le peuple pour que nous l'applaudissions comme aujourd'hui, certains sont en train, les gens cherchent son père, le général Yadema, qu'on le cherche aussi comme ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. 90 86 35 35, 91 36 ou 315. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
C'est Monsieur Combatté.
Monsieur Combatté.
Je n'ai pas votre retour, mais je vais aller quand même.
D'accord, allez-y, Monsieur
J'aimerais
Combatté.
J'aimerais vous dire bonne heureuse année pour l'année nouvelle.
Merci.
Et j'aimerais revenir sur le discours du chef de l'État. Tout d'abord, vraiment, c'est déplorable, ça fait pitié. Parce qu'il n'est même pas revenu sur nos frères tombés vers le nord. Après, avec les terroristes, ils sont là-bas. Et ils veillent jour et nuit. Mais le chef de l'État n'est pas revenu sur ce point-là. Actuellement, le bol de maïs au nord, là-bas, ça fait 2000. 2000, le bol de maïs, c'est 2000. C'est plus cher qu'à l'homme ici. Parce que avec le terrorisme au nord, les agriculteurs se sont déplacés. Ils sont souvent... n'arrive même plus à ne trouve même plus à manger, c'est la souffrance totale. Je suis de la région et je vous dis j'observe, mais il n'a même pas revenu sur ce point-là pour au moins soulager les familles. J'espère que c'est pas du tout sérieux, c'est pas du tout sérieux. Bon. Merci.
Oui,
c'était mon point de vue.
D'accord, merci. C'est votre point de vue. Merci beaucoup, Monsieur Combatté, 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pascal.
Oui, votre nom c'est?
C'est Monsieur Abioké.
Ah, Monsieur Abioké.
Oui.
Allez-y.
Je salue le plateau.
Oui, salut le plateau aussi, salut. Merci.
Permettez-moi de saluer le chef de l'État. Bonne heureuse année. Mes félicitations à lui. Et Monsieur Pascal. Je voudrais vous demander un grand pardon. Vous, avec vos confrères là-bas, aidez-moi. S'il faut rencontrer le chef de l'État, quelle voie il faut entreprendre? Dites-moi. Parce que depuis 2019, le 27 2019, c'est le chef de l'État lui-même en personne qui m'a vu après ses propres yeux. Et il m'a doigté à son gâteau de ne pas mon numéro pour l'amener. Et heureusement que son gâteau est venu. Me dit que le patron m'a demandé de prendre son identité pour l'amener. Et je lui ai donné mon numéro. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais appelé. Je suis allé voir papa, le président national de l'Assemblée de Dieu. Il a envoyé les gens, ils sont partis à la présence. Ils ont rencontré les procureurs du chef de l'État.
Monsieur Abioké.
Oui.
C'est vrai que vous êtes toujours revenu alors sur cette histoire. Mais oui. Je pense quand même qu'on pourra en parler déjà hors antenne.
Pardon?
Je pense qu'on peut en parler hors antenne.
Ah bon?
Oui, il n'y a pas de souci.
Par contre, mon ami, pourquoi je suis toujours rencontré? Si jusqu'à aujourd'hui, on ne m'appelle pas. J'ai fait des sittings à la présidence, à l'ancien président de la présidence. Les forces de l'ordre,
oui.
Ils m'ont pris là-bas pour l'amener.
Ok, monsieur Abioké, merci beaucoup. On va s'intéresser à un autre auditeur, 90-86-35-35. Allô? Allô, bonjour. Allô? Décidément, il n'est pas en ligne. Bonjour, Monsieur Pascal. Bonne et heureuse année à tous sur le plateau par rapport au discours du président de la République. Il n'y a rien à mettre sous la dent. Toujours dans le passé, se cachant derrière Covid et la guerre en Ukraine pour justifier cet enfer que nous vivons au Togo. Pendant ce temps, les pays limitrophes sont dans la politique de grands travaux. Ce sont la guerre en Ukraine et le Covid qui mettent au feu les marchés, c'est la guerre en Ukraine qui a changé notamment notre contrat social sans nous. C'est Covid qui laisse impunis ceux qui pillent la République et la minorité qui s'accapare de la richesse alors du pays. Ce discours est une fuite de responsabilité. C'est Monsieur Kossi depuis Agouin. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
C'est Monsieur Mauto.
Allez-y. Salut le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue. Allez-y. Merci.
Par rapport au discours du chef de l'État,
moi, je n'ai rien retenu. Hein. Il n'a rien là-dedans. Ça veut dire que le président de la République n'écoute pas la majorité. Il n'écoute que la minorité. Il a dit dans son discours qu'on a voté une constitution. Qui aussi ont voté cette constitution? Les députés qui ont en fait de mandat. Une constitution qui est la clé de toutes les institutions pour l'adopter, ont refusé de respecter la loi. C'est un premier aspect. Deuxième aspect, il a dit qu'ils ont mené une vaste campagne contre la vie chère. Quelle mesure a été prise? Les 60 francs pour les fonctionnaires, une mesure discriminatoire. Ça ne veut rien dire. Troisième aspect, il a comparé les régimes parlementaires. Montrez-moi dans quatre pays-là la situation de l'Assemblée. Dans quel pays le régime parlementaire et une partie seule va avoir 100 combien de députés, tu comprends combien de députés? 113, ils ont 805 députés. Merci, bonne émission.
Merci pour votre intervention, Monsieur Mauto. Bonjour, Canal FM. Je suis surpris dans le discours du chef de l'État que la vie chère que nous parlons ne le préoccupe pas. C'est Kofi depuis Jangera. Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Non, ça ne va pas.
Votre nom, c'est
Abonné.
Ah, Monsieur Abonné.
Oui.
Allez-y.
Bonne et heureuse année à tous, surtout santé.
Merci, pareil.
Sur le débat, si même... le discours a été écrit vivant les actualités du pays et que depuis 2013-2014, cette affaire de marché brûlé continue. Le chef de l'État pouvait faire une minute de silence pour ses sinistrés. Et si réellement c'est lui-même qui avait envoyé des gens sur la question de la passerelle, c'est encore l'occasion de mentionner sa vive consternation par rapport à ce drame-là. Mais s'il ne le fait pas, c'est un grand oubli qui nous choque pour le vivre ensemble. Maintenant, sur la question de la 5e République dont il parle, je veux bien, par votre canal, nous rappeler qu'il est en train d'agir comme un récidiviste des coups d'État constitutionnels au Togo. Parce que si je me rappelle de 2005, et de 2018, c'est une assemblée en fin de mandat qui a changé tout récemment la constitution. Et la législature en question avait la prérogative de faire une révision et un changement. Il y a un grand fossé entre la question de révision et la question du changement de constitution. Parce que c'est un pacte social qui a été brimé comme ça contre Vendée-Marie. Et quand il nous dit que nous autres, nous allons en 5e République en 2025, je l'assume sur le fait qu'il réagit comme un récidiviste des constitutionnels. Et c'est puni par la loi, par son article 148 et 150. Et ça là, il faudrait qu'il ne soit pas, comment dirais-je, étonné que les Togolais vont réagir. Merci
beaucoup, Monsieur Abonné. Monsieur Abonné, c'est lui le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un tour de table et clôturer l'émission de ce jour. Uriel, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici au Club de la Presse. Et beaucoup sont revenus sur le discours du chef de l'État. Et votre réaction, déjà par rapport à ces réactions également des auditeurs, votre réaction?
Non, c'est une diversité d'opinions qui démontre une fois encore la liberté d'expression. Mais concernant M. Combaté qui dit que le chef de l'État dans son discours ne s'est pas intéressé aux forces de l'ordre et de sécurité dans la région de la Savane, peut-être il n'a pas écouté le discours ou il ne l'a pas lu. Sinon moi je crois bien qu'il a c'est même la région de Savane qui a été plus intéressée dans ce discours, même jusqu'à il a même précisé qu'il a passé le jour de Noël avec les forces de l'ordre.
Effectivement, Monsieur Combaté a dit que le chef de l'État n'a pas rendu hommage aux frères qui sont tombés. C'est ce qu'il a dit. Donc, que le chef de l'État n'a pas rendu hommage aux soldats qui sont morts.
qui sont tombés.
Non, moi j'ai compris autre chose. Hein. Oh, oui, j'ai compris. On peut réécouter ça. On peut réécouter parce que là, il s'est vraiment exprimé et il a insisté là-dessus. Il a duré là-dessus aussi.
Oui, c'est vrai qu'au prime abord, il s'est intéressé au fait que le chef de l'État ne s'est pas intéressé.
Justement,
il a précisé aux frères qui sont tombés.
Il ne s'est pas intéressé aux frères qui sont tombés. Il a même salué. Je ne sais même pas comment il a lu le discours, comment il a écouté. Sinon, il s'est intéressé. Même si ce n'est pas dans le discours, pour des événements où il s'impose à se prononcer, il le dit toujours. Il ne pouvait même pas le faire. Même Gosson, tout à l'heure, pour ouvrir l'émission, il a salué ses forces de l'ordre. Ce n'est pas le chef de l'État qui va ignorer les forces de l'ordre tombées. Non. Et puis, bon, tout le monde sait ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la région des savanes et quels sont les efforts fournis. Je pense que il est libre, hein, c'est son opinion. Exactement. Peut-être ça va pousser les autorités à mieux faire.
Tout bon, à fait.
Tant mieux, on ne peut pas ignorer quand même un soldat tombé puisque il est cher pour sa famille, il est cher pour le pays. On ne peut pas l'ignorer comme ça.
Tout à fait, il est cher pour la nation. Jacques?
Non, je crois que pour les années à venir, l'effort par rapport au discours, si le chef de l'État peut présenter l'état de la nation à l'Assemblée nationale, je crois qu'il aura plus de temps pour rentrer dans les détails dont nous avons fait mention et cas ici. C'est-à-dire que là, c'est un lieu où on sait que nos représentants sont là, c'est-à-dire que les députés qui sont à l'Assemblée nationale pourront également mieux décortiquer ce discours et mieux également l'expliquer à nos populations. Donc je crois qu'il faut que cet effort-là soit fait. C'est vrai que c'est une année-là il l'avait fait ou bien il ne l'a pas fait, je ne sais pas. Mais il faut quand même que cela, on puisse le faire pour une compréhension la plus approfondie de nos populations par rapport à l'état de la nation.
Effectivement, je me souviens aussi qu'il y a une année où le chef de l'État a présenté l'état de la nation.
Justement. Oui, Didier. Non, mais peut-être pour lever la polémique, je lis la phrase ici du chef de l'État. Il dit, et je veux ici rendre un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité avec lesquels j'ai passé le jour de Noël dans le Nord.
Voilà.
Donc voilà, c'est ce qu'il a dit à ce sujet. Donc je pense fondamentalement que pour les services de com ou les services de renseignement qui écoutent l'émission et qui pourront rendre compte au chef de l'État, ça reste des appréciations des Togolais telles qu'on l'a écouté. La plupart de ceux qui ont appelé ont parlé et c'est le prolongement du discours du chef de l'État qui doit naturellement prendre toutes ses appréciations en compte pour la nouvelle année. Donc ça veut dire que les Togolais veulent entendre le chef de l'État, l'entendre sur un certain nombre de sujets et l'entendre peut-être sur d'autres aspects du pays. Mais qu'à cela ne tienne, c'est que le chef de l'État, il a en charge les préoccupations de tous les Togolais. Il lui revient de prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour que les Togolais soient satisfaits in fine, parce que c'est d'ailleurs pour cela qu'il est le chef justement de l'État. Et je pense qu'il faut prendre en compte toutes les observations des uns et des autres. Et l'essentiel, c'est qu'on commence par agir sur les leviers. Gosson a dit quelque chose tout à l'heure qui ne doit pas être négligeable, c'est que la petite saison n'a rien donné cette année, ou du moins la fin de l'année dernière. Et donc, en ce début d'année, on aura des difficultés, notamment en ce qui concerne les crises alimentaires. Et il faut justement que des efforts continuent d'être appuyés dans ce sens pour éviter de possibles crises alimentaires.
D'accord.
Avant que la grande saison ne commence par donner des résultats.
D'accord. Gosson?
Oui, j'ai été interpellé, saisi par les propos de Mauto et Kofi et d'autres aussi. Et ça me donne une idée. Est-ce qu'il ne serait pas temps que l'INSED initie une plateforme pour ces gens de sortie du président de la République, notre président de la République, on interroge les citoyens pour qu'ils donnent leur appréciation. Ça pourra aider l'exécutif à mieux orienter les prochains discours ou les prochains états de la nation. Parce que mon petit doigt me dit que si on devrait interroger ou alors sortir une statistique sur le nombre de citoyens satisfaits ou non du discours de notre président, on risque d'être surpris.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Gosson Ketomania, puisque nous sommes à la fin alors de cette émission. Merci d'être passé. Merci, Uriel Enyang, d'être passé alors dans cette émission.
Je crois que Jacques Dacouti, merci. Par rapport à Bioké dont vous parliez tout à l'heure,
oui.
Vous avez bien fait. Je crois qu'il faudrait également que les services de la présidence quand même fasse quelque chose. Ça fait combien d'années
que ça dure,
oui, cette question. Ça fait combien d'années que ce monsieur-là crie
sur les médias.
Oui, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même que quelqu'un au niveau de la présidence aille rendre compte au chef de l'État pour lui dire ce qui se passe.
D'accord. Merci beaucoup, Jacques Dzakouti, d'être passé aussi dans cette émission. Didier Assogba, merci d'être passé. Merci pour votre contribution à ce débat. Merci à vous qui nous avez suivis aussi, vous qui êtes nos auditeurs, bien sûr, et qui avez appelé dans cette émission. Merci à vous. On se retrouve la prochaine fois. Merci à Michel Tomega, Jérôme Dacouti a assuré la mise en ligne. On se retrouve la prochaine fois et c'est demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.